Welcome to the Montreal Media Co-op's latest segment on CKUT's Off the Hour. It's Tuesday, July 12th, and I'm your host, Natasha Lipney. On today's show, La Grande Déménagement. On July 1st, an estimated 100,000 Montrealers packed up their belongings and moved into new homes and apartments. Or did they? We'll chat with a member of the Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain about their concerns surrounding Montreal's housing situation. An ideas and initiatives organization tells us how they made this move-in day a little bit greener. And the RueFrontenac.com journalists do a moving out of their own. But first, Patrick Cadorette, an organizer of the Convergence des Luttes Anticapitalistes, was one of the 1,100 people arrested during the G20 summit in Toronto last June. He was recently released after 11 months of community arrest. Fellow Montreal Media Co-op reporter Olivier D. Asselin sat down with Cadorette last week to discuss his imprisonment and growing police surveillance of militant groups. Here is his interview.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été arrêté, moi, le 26 juin 2010, au matin. Je sortais, en fait, de l'appartement où je restais. Et puis, juste à ma sortie, en fait, le matin, on m'a tout de suite interpellé, on m'a placé en état d'arrestation, on m'a dit que j'étais accusé de plusieurs chefs d'accusation de complot. Plus tard, là, on m'a expliqué exactement que j'étais accusé de trois chefs de complot. Je suis resté deux semaines en détention, comme je disais tout à l'heure, à la prison à sécurité maximale. Ça s'appelle Maplehurst. À l'issue de ces deux semaines de détention-là, j'ai eu une audience de remise en liberté sous caution. Puis sinon, ben, là, il y avait un assortiment de conditions de libération extrêmement sévères, dont l'assignation à domicile. Mais l'assignation à domicile, ça peut prendre plusieurs formes. En ce qui me concerne, le juge a déterminé il m'a accordé, en fait, il m'a donné la grande faveur que je pouvais demander des permissions, où je pouvais sortir de chez moi tant que j'étais accompagné par un adulte responsable, désigné par écrit. Donc, en tout temps, je devais avoir sur moi une permission écrite qui disait, bon, je pouvais être à telle place pour tant de temps avec telle personne. En fait, ce qui est ressorti, c'est que les réseaux anticapitalistes, les réseaux plus spécifiquement même anarchistes en Ontario, avaient été infiltrés. Les deux infiltrateurs, dont celle qui a réussi, en fait, il y en a un des deux qui a été identifié puis a été un peu rejeté, un peu du réseau, mais celle qui s'est rendue jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au sommet, elle était déjà infiltrée en avril 2009. Cette agente-là s'est acquis un capital de sympathie, finalement, en jouant la victime, en disant que, bon, elle avait été victime de violences domestiques. Donc, c'est des enjeux sensibles, c'est des cordes sensibles pour beaucoup de militants qui luttent là, au jour le jour contre l'oppression. C'est-à-dire que cette personne-là, qui travaillait pour la police provinciale de l'Ontario, s'est fait passer pour une militante elle-même et elle s'est rapprochée extrêmement proche, dans le cercle intime de militants. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de rapport intime au sens physique, mais il y a eu des rapports intimes au sens émotif, c'est-à-dire que les gens sont devenus très, très, très proches, sont devenus des amis, et c'est ce qui a permis, en fait, à cette personne-là de devenir, d'être un asset, comme ils disent en anglais, un atout extrêmement précieux pour l'État. La semaine dernière, il y a quatre militants qui ont été arrêtés en lien avec des actions qui ont eu lieu, des choses qui se sont produites à la dernière manifestation du 1er mai, la manifestation anticapitaliste du 1er mai. Et à partir de ce moment-là, d'après ce qu'on a appris cette semaine, l'escouade anti-gang de la police de Montréal s'est mise à surveiller des militants du Parti communiste révolutionnaire, et ce qui a mené à l'arrestation de quatre militants la semaine passée avec des mandats de perquisition. Ça, c'est important parce qu'il a fallu qu'un juge intervienne et détermine qu'effectivement, c'était valable d'émettre un mandat de perquisition. Dans le fond, c'est la résurgence d'une police politique. Là où, dans les années 70, il y avait beaucoup, beaucoup de ressources qui étaient attribuées à la police politique, la surveillance des groupes indépendantistes, notamment ici au Québec, le FLQ, etc., ou les groupes dissidents ou les groupes communistes révolutionnaires, ben 40 ans plus tard, ça refait surface, ça. Avec Harper, avec sa majorité, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait de plus en plus de ressources qui soient investies dans la police politique. politique. Et puis là, on en a la preuve avec les 500 millions de dollars qui ont été investis dans le budget de sécurité là, pour le sommet du G20, la création de ces agences de sécurité dites intégrées. Et puis là, à Montréal, ben, on se rend compte même que le SPVM, selon les informations qui sont sorties cette semaine, a créé une escouade qu'ils appellent le GAY, des activités et des mouvements des marginaux et des anarchistes. Alors, l'escouade Gamma, qui est sous le chapeau de l'escouade anti-gang du service de police de la ville de Montréal. Alors, on se rend compte que la dissidence politique est de plus en plus sous le microscope de l'État. Là, quand on parle de militants, la plupart des militants sont impliqués dans leur communauté, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans le communautaire ou que d'une manière ou d'une autre sont impliqués dans leur communauté, que ce soit institutionnel ou pas, à plein de niveaux. Tu parlais des groupes qui soutiennent les nouveaux immigrants ou les personnes réfugiées ou les personnes dont les droits sont pas respectés quand ils arrivent ici, les personnes qui luttent contre la brutalité policière sur des bases tout à fait légitimes, toutes sortes en fait d'implications à caractère constructif, positif, mais ces gens-là, étant donné leurs convictions politiques, sont surveillés par l'État, sont considérés par l'État comme des menaces, au même titre que des terroristes ou des criminels de droit commun. L'exemple qui nous vient à l'esprit, c'est ça, c'est les gangs ou le crime organisé. Quand l'État va dire, ou quand les médias mainstream vont dire « Ah, les jeunes sont désimpliqués ou sont apathiques », mais ce qu'ils veulent, c'est d'encourager le monde à aller voter, mais pas tellement plus que ça. C'est aller voter, mais après ça, retournez chez vous puis regardez la TV. Dans le contexte actuel, le contexte national, mais le contexte international, j'encouragerais les gens à être curieux, à s'informer, à aller plus loin que ce qui nous est offert dans les médias ou ce que les politiciens nous disent, à pas se contenter non plus d'être platement cynique, puis de dire « bon, mais il n'y a rien à faire, c'est tout décroté, c'est tout, je vais m'ouvrir une autre canne de bière ». Ouvrez-vous des cannes de bière tant que vous voulez, mais en autant que vous restez curieux, puis que les gens commencent à s'impliquer aussi, d'une manière ou d'une autre. Faites quelque chose. C'est comme si les gens s'occupent pas de politique, la politique s'occupe d'eux autres. C'est sûr que c'est un cliché, mais c'est vrai, tu sais. Il faut passer à l'action, il faut faire en sorte que les choses changent.
You are listening to CKUT's Off the Hour. This is Natasha Lipney for the Montreal Media Co-op. Now for our move-in day coverage. RueFrontenac.com, a source of online grassroots media, has been reduced in a matter of days to a website of broken links and blank images. On July 1st, the journalists who had been running the publication for over 2 years quit over ownership disputes. RueFrontenac.com was created by the 253 employees of Journal de Montréal following a lockout in January 2009. 45 of these employees stayed on at the website after the lockout ended this February. But the work plan proposed by a new financial investor who came onto the project in June didn't sit well with the remaining journalists. Negotiations with the new owner failed, and the journalists went offline. On July 1st, 18 Montrealers found themselves without lodgings for the coming year. As of today, they're still homeless. That's 5 fewer people than last year, but still 18 too many for the Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain, or FRAPRU. This provincial housing rights group has spoken out this past week about several factors contributing to what it considers Quebec's poor housing situation. According to the group, housing costs have increased on average 36% across the province. An apartment in Montreal now runs for on average $678 a month. 1 to 2 floor houses have seen anywhere from $19,000 to $25,000 jumps in price over the past year. Meanwhile, Montreal continues to see new condominium projects spring up without the slightest respect to the Stratégie d'inclusion de logement abordable, a policy adopted by the City of Montreal in 2005 that dictates new residential developments over 200 units must consist of 15% social affordable housing. But the non-obligatory nature of this strategy means it has been little followed. Last week, a condominium building void of any affordable units was unveiled in Ville-Marie. The Canada Mortgage and Housing Corporation announced last Monday $1.4 billion will be invested in joint federal-provincial agreements until 2014 to stimulate affordable housing options. Still, FRAPRU believes these federal and provincial government measures are insufficient in stemming this housing hardship. To help us understand the extent of the problem is Mathieu Francard of Frappru, who joins us by telephone now. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Tasha.
Premièrement, qu'est-ce que vous pensez de l'annonce de la Société canadienne d'hypothèques et de logements de ces 1,4 billion de dollars?
Ben, disons que c'est un très, très petit investissement qui a été annoncé la semaine dernière par la SCHL. Le gouvernement fédéral, qui historiquement a financé beaucoup le logement social au Québec et au Canada, s'était retiré pratiquement au complet depuis le dernier budget fédéral conservateur. Même les élections, bon, évidemment, n'ont rien changé à ça. Et on se retrouvait avec un vide total. Et là, on a réannoncé ce qu'il y avait un peu l'année passée, mais c'est vraiment des pinottes ou des miettes, comme on dit. Pour le Québec, par exemple, c'est environ 55 millions par année, ce qui fait quelques centaines de logements sociaux par année pour le Québec. C'est très, très en deçà des centaines de milliers de personnes qui ont des besoins urgents de logement. Donc, c'est un minimum qui n'est pas un, qui est vraiment à peu près rien. Mais ça, de la part des conservateurs, on s'y attendait. Et étant conservateur, on sait que les engagements sociaux, c'est pas leur priorité. Donc, c'est pas du fédéral que les investissements vont venir dans les prochaines années, c'est sûr.
OK. Et qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que Frappru veut voir en termes de plan pour l'utilisation de cet argent par le Québec?
Bien, c'est sûr que l'argent, en général, le Québec l'a toujours utilisé quand il venait du fédéral pour faire des nouveaux logements sociaux, donc des coopératives ou des OSBL d'habitation, ce qu'on souhaite, ce qui se continue d'ailleurs dans les prochaines années. Au Québec aussi, il y a un programme qui finance du logement social. C'est sûr que le danger est de faire, par exemple, de l'aide directe aux propriétaires pour de la rénovation, donc des subventions déguisées aux propriétaires, ou de faire des suppléments directs aux propriétaires qui maintiennent leur loyer élevé, mais qui permettent à des gens de se loger. Nous, on croit beaucoup plus au logement social, logement collectif, logement communautaire, donc des projets où les gens sont plus autonomes dans leur logement, paient des loyers plus raisonnables, qui sont en bas de 25 % de leurs revenus. Et donc, on souhaite que cet argent-là aille dans la construction de logements sociaux. Par contre, il y a aussi une autre problématique qui est sur la table actuellement, c'est tout le parc de logements social qui a été fait par le fédéral, comme je disais, qui a été beaucoup actif dans les années 70 à 80. Ce parc de logements-là est de plus en plus vieux et ancien et a besoin de rénovation. Il y a aussi besoin surtout que les subventions loyers continuent. Donc, de ce côté-là aussi, le fédéral faudrait qu'il fasse beaucoup d'investissements. Mais on souhaite qu'au moins le minimum qui a été envoyé serve à faire du logement social. Dans les grandes villes comme en région, il y a des besoins immenses aussi. Ouais.
D'accord. Et néanmoins, la diminution de personnes sans loger cette année, dès le 1er juillet, pourquoi est-ce que vous pensez que le logement pourrait encore être un problème à Montréal cette année?
Ben c'est sûr qu'il y a eu autour de 200 personnes au Québec et bon à peu près une cinquantaine à Montréal qui ont eu recours à l'Office municipal d'habitation pour soit se loger temporairement, soit avoir un supplément au loyer d'urgence, ou soit avoir de l'aide en général. C'est sûr que le chiffre est moins élevé que l'année passée, beaucoup moins élevé qu'il y a une dizaine d'années, qu'en 2002-2003, quand il y avait eu des centaines de personnes qui avaient eu besoin d'aide direct au 1er juillet. Mais on sait que les gens prennent des logements quand même parce qu'il y en a quelques-uns, mais qui sont extrêmement chers. Donc, les gens se ruinent pour se loger. Donc, prennent 50 % 60 % 70 % de leurs revenus pour payer leur loyer, ce qui n'est pas une bonne chose à court terme et à moyen terme non plus. Il manque aussi énormément de logements à plusieurs chambres pour les familles à Montréal. Il y a beaucoup de studios de 3,5. Beaucoup, quelques-uns qui sont libres, mais il y a un manque très, très, très important de logements plus grands pour les familles. Et ceux qu'il y a qui sont libres sont extrêmement chers. Donc, ça, c'est un problème important. Et c'est sûr que nous, c'est sûr qu'on revient toujours avec l'histoire que, bon, on veut du financement public pour qu'il y ait du logement social, pour que les gens soient bien logés, paient une part raisonnable de leurs revenus pour le logement. Et les chiffres qui sont plus bas cette année pour le 1er juillet ne montrent pas qu'il y a quand même des importants problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très mal logés. Comme je disais, vous parliez tantôt de 100 000 personnes qui ont déménagé à Montréal. Ces gens-là déménagent souvent parce que les loyers sont trop chers, parce que les appartements sont trop petits, sont mal entretenus, sont insalubres. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et au Québec, le nombre de logements sociaux qui va être fait en 2011-2012 va être de 2000 au lieu de 3000 l'année passée. Donc, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'il va y avoir des... Il risque d'avoir dans les prochaines années beaucoup plus de monde qui vont être sans logis, qui vont être mal logés. Et je peut-être noter aussi que ça ne comprend pas les gens qui sont déjà sans abri depuis des mois et des années, qui ne sont pas comptés dans ces statistiques-là non plus.
Oui. Et même si la Ville de Montréal est consciente de ces statistiques-là en termes de non-logis, pourquoi est-ce qu'elle continue à investir dans des projets de condominium sans inclure la stratégie d'inclusion? Pourquoi ça continue?
Bien, disons que la ville de Montréal a fait une stratégie d'inclusion il y a quelques années qui est pas obligatoire officiellement, qui dépend beaucoup des arrondissements, qui dépend de beaucoup de choses, qui selon nous devrait être obligatoire évidemment. Mais il y a un projet comme tu parlais tantôt dans Ville-Marie, dans Sainte-Marie, dans Centre-Sud, où il y a 200 condos qui vont être faits, il devrait avoir au moins 15% de logements sociaux. C'est pas respecté. La ville dit qu'il y a pas de problème. Donc c'est sûr que ce qu'on comprend à la ville de Montréal, c'est qu'ils sont pas du tout intéressés à avoir plus de logements sociaux, même si officiellement ils le disent. Mais dans les faits, tout ce qu'ils font, c'est favoriser l'accès à la propriété, c'est favoriser des nouveaux condominiums, c'est de transférer des terrains de la ville à des projets de condominiums qui sont à des prix très bas, de favoriser par toutes sortes de mesures fiscales les condominiums. Donc, il y a vraiment là-dessus un problème. Puis, il y a des arrondissements qui, des fois, veulent faire un peu plus, mais au niveau de la ville-centre, de la ville de Montréal, qui, entre autres, contrôle l'arrondissement Ville-Marie du centre-ville, il y a vraiment un problème important de manque de volonté d'avoir du logement social et d'un manque de volonté de dire qu'il y a un déséquilibre entre les condominiums et les logements sociaux et aussi les logements locatifs, comme tu disais, qui sont 10 fois moins importants en construction que les condominiums en 2010.
OK, bien, merci beaucoup, Mathieu.
Bien, merci.
Rising housing expenses have particularly impacted youth. 26% of Montrealers up to the age of 17 live in low-income housing. As many residents are seeing their paychecks being depleted by increasing rental prices, more and more Quebecers have no housing to speak of whatsoever. Some of Montreal's largest homeless shelters, including the Old Brewery Mission, Welcome Hall Mission, and La Maison du Père, report being over capacity this summer. But these charitable organizations have not only been inundated with people seeking shelter. Thanks to Génération d'Idées, July 1st brought them a wave of donated furniture. Génération d'Idées is a non-for-profit ideas hub aiming at 20 to 35-year-olds who wish to express their political, social, economic, and cultural opinions in hopes of contributing to a brighter future for all generations. Joining us now in the studio is Kimberly Desermont, the spokesperson for the event Le 1er Juillet, ne laissez pas vos meubles faire le trottoir. Welcome, Kimberly.
Welcome. Yeah.
Why did Génération d'Idées feel it was important to sensitize the public to move-in day waste?
Because we realized there's so much furniture and other stuff that ends up on the streets, and we realized so much of it is still reusable, and we decided to collect furniture in several neighborhoods and bring them all at a central place, which was Parc Laurier, and we recreated an apartment. So we had about 30 furniture, and visually it was symbolic to show how much of it goes to waste around the 1st of July, and it's still very, very good furniture and other objects that just ends up at the waste.
And is this wasteful trend, is this something that happens every single year?
It is. You can see it every year when close to 1st of July, on the sidewalks, there's so much furniture and there's so much many garbage bags. You would open them and you would realize there's a lot of clothing, a lot of reusable stuff, but that's just being thrown away, whether it's because people lack time or did not really were a bit lazy or whatever the reason, but there's so much of it that ends up on the street. And the city of Montreal did mention that around this time, a lot more garbage ends up in the dumpsters. And so we know that there's a correlation between this time of the year and the massive increase in garbage and furniture thrown away.
And how did you make the connection between these people who were going to throw away their furniture and charities that you might connect with? I understand there were a number of charities that you actually contacted.
Exactly. So we wanted to collect all the furniture, have this symbolic apartment in a park so that we raise awareness. But afterwards, we brought the furniture to a center that resells them and everything. So it was both raising awareness and at the same time bringing the furniture to an organization that can resell it. So that was the idea.
And what were people's reactions to this symbolic action, to this apartment in the park?
A lot of passerby really liked it. Actually, some people asked if they could have the furniture. The furniture that's put on the sidewalk is really, really nice. So people were like, wow, it's so nice what's being thrown out. And we did give away some to passerby that need needed it. So the symbolic action was very positive. We had three media, CTV, La Presse, and Le Devoir. And so it really had the, our main objective was really raise awareness, but raise awareness especially throughout the year, not just for the 1st of July, because it happens throughout the year that people are buying furniture, buying new clothes, and they're not taking the time to give it away, either to charities or to their friends, or sell it on Kijiji, which is also an okay solution. But as long as they really think about what they're going to do with it next, so that it's being reused and doesn't end up in the garbage.
Now, do you plan on continuing similar initiatives throughout the year, or at least next July?
This might become an annual event. We're not sure. It's in a year from now. But similar initiatives, that definitely. That's one of our main goals. One of it is to have public discussion, citizen debates on current issues. But the other aspect that we're starting now is having concrete initiatives, whether it's on education, sustainable development, or other important issues, so that we're able also concretely to contribute by one or another initiative on the ground.
Okay, well, thank you very much for being here.
Thank you.
To see a full list of the group's ideas, or to contribute your own, or to find out about these citizen debates, head to generationsidées.ca or look them up on their Facebook group. The Montreal Media Co-op is hosting its own idea sharing night. Next Wednesday, July 20th, come join us at Casa del Popolo for a 5-7 media mixer. We're looking to engage members of the plateau in discussions on how to better cover stories and issues of concern in the community. Check out our Facebook group for further details. We hope to see you there. And don't forget to check our website daily for local independent grassroots coverage. If you'd like your event or issue covered by one of our reporters, don't hesitate to post it on our events or discussions board at montreal.mediacoop.ca. Or head out and do your own reporting. We'd love to see your piece on our website. This has been Natasha Lipney for the Montreal Media Co-op.